Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui, comme tous les jours à 17h, on se retrouve pour une nouvelle émission Sortez, toujours en compagnie de Chloé. Coucou.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Brian Massé du Boxing Club de La Riche. Donc bonjour Brian.
Et bonjour à vous.
Alors du coup, est-ce que pour débuter cette interview, tu pourrais nous dire un peu ton rôle dans les Boxing Clubs? Alors il y a La Riche, il y a Tours, en fait c'est trois clubs qui correspondent à la même association, si je ne me trompe pas.
Alors, non, pas exactement en fait, c'est bien trois associations différentes,
okay.
C'est des villes différentes. On a le Boxing Club La Riche, le Boxing Club Tour Nord, le Boxing Club Tour Métropole, qu'on vient d'acquérir, qui se trouve au gymnase de la Rotonde à Tours Centre.
Yeah.
Donc pour la petite histoire, c'est le Boxing Club La Riche qui est précurseur de ces trois clubs, qui a été créé par André Massé en 1991, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il y a eu le Boxing Club Tour Nord, et puis qui a été créé par mon oncle Stanislas Polo, qui après nous a laissé l'affaire. Et puis après, on a repris le Boxing Club Tour Métropole, quoi. On a ouvert le Tour Métropole cette saison-là, quoi.
Ok, super. Alors du coup, ces trois clubs se sont alliancés pour l'événement du coup de demain, du 23 novembre, le Tour Event Fight.
C'est ça, donc c'est la mutualisation de ces trois clubs avec tous les bénévoles justement de La Riche, Tour Nord et Tour Centre qui se réunissent et puis qui montent cette manifestation et qui monte de plus en plus, qui est de plus en plus jolie et qui est de plus en plus appréciée par nos spectateurs et ceux qui nous suivent.
Oui, parce que c'est la 7e édition du coup.
C'est ça, on en organise déjà deux par an, donc c'est vrai qu'on on a matière à travailler et d'évoluer assez rapidement.
Ok, donc ça c'est vraiment vous qui l'organisez pour créer une espèce de vie dans le combat en fait à Tours, quoi.
Bah c'est ça, et puis on aime faire boxer nos boxeurs aussi, c'est important. On a des bonnes petites pépites, du moins dans notre club en tout cas. Bon, dans la région il y en a d'autres, hein. Et faut boxer, si on boxe pas on peut pas évoluer, et de boxer sur des beaux plateaux, des belles manifestations, ça fait progresser, ça fait prendre de la confiance en soi, et donc et ça permet aussi de les mettre en avant, de se faire montrer. Et puis les faire évoluer, parce qu'on sait aussi très bien que dans la boxe c'est pas forcément facile de s'en sortir, même quand on est professionnel. Donc ça fait aussi rencontrer des gens, et pourquoi pas après à l'avenir arriver à 30 ans, et ça ouvre des portes sur des jobs, donc d'être mis en avant comme ça, c'est aussi important pour nos élèves, quoi.
Ouais, se faire connaître. Et tu as parlé de professionnels. Je me demandais d'ailleurs les statuts du coup des boxeurs en France. Est-ce qu'il y a des choses qui régissent ça?
Alors on boxe sous la FFKMDA, Fédération Française Kickboxing, Muay Thai et Discipline Associée. C'est la fédération délégataire. On va dire que c'est la fédération principale en France. Et donc c'est sous celle-ci qu'on boxe. Et donc voilà. Donc on passe par cette fédération pour pouvoir s'inscrire sur le championnat de France. Championnat du monde si on est qualifié et si on est en équipe de France. Donc voilà, c'est elle qui dirige tout ça. Il y a un côté amateur, classe B, classe A, et dès qu'on a les points ou qu'on veut monter en classe pro, on passe en classe pro, après promotionnel exactement chez la FFKMDA.
Ok, et toi tu te situes où de tout ça?
Moi je me situe où? Moi je me situe sur le banc. Maintenant c'est fini pour moi, je boxe plus, je boxe pour le plaisir. J'ai été professionnel quelques années, j'ai fait un championnat du monde Shows Fight et un championnat d'Europe à Shows Fight aussi, une discipline un peu dérivée de la boxe française, un mix de boxe française et de kickboxing. On avait le droit au pied, au poing, au tibia, mais on était en chaussures de boxe française, à la différence du kickboxing où on est pieds nus. Et en short, moi j'étais en pantalon, comme un peu en full contact pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, et suite à ça, après j'ai fait quelques combats en kick et en K1. Et j'ai arrêté, puis de passion transmise par mon père, le fait d'entraîner, parce que c'est mon père à la base, le précurseur de tout ça, qui est aussi entraîneur et organisateur du Tour Event Fight au passage. J'ai voulu aussi, avec ma sœur, entraîner mes élèves, et puis c'est ce qu'on fait maintenant depuis 3-4 années, et ça marche très bien, donc on continue.
C'est cool. Alors, tu pourrais nous décrire un petit peu comment on entraîne les boxeurs, comment on se prépare à un événement comme ça?
Alors pour des boxeurs pour un événement comme ça, pour les boxeurs classe A, professionnels, on sait qu'on boxe en novembre, on commence mi-août, fin août, on va faire du foncier, et puis après on va réduire les temps de boxe, on va faire du spécifique, on va travailler à la leçon, sur les pattes d'ours, sur des cibles, on va faire de la piste. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et puis faut pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il faut pas surentraîner, faut pas ne pas assez s'entraîner. Donc voilà, donc faut connaître un peu son sujet. Et puis bon, ça m'arrive encore de demander au papa, bon voilà, t'en penses quoi, bon, pour essayer de peaufiner, puis que ce soit bien fait surtout.
Yeah, carrément. Et tes boxeurs, du coup, ils vont pouvoir affronter d'autres boxeurs venus un peu d'autres horizons.
C'est ça, tout à fait. Alors nous avons une féminine qui boxe chez nous maintenant depuis 3 saisons, donc qui va pouvoir s'exprimer contre une fille de l'Auvergne qui a été championne de France Muay Thai en 2018. Donc c'est intéressant, c'est une opposition qui devrait envoyer sur le ring, hein. Surtout que moi je connais pas trop l'adversaire, je connais juste son palmarès, mais je connais mon élève et je sais ce qu'elle vaut. Donc si l'autre elle est bien en face, ça va faire un beau combat quoi qu'il arrive.
Yes. Carrément. Alors tu as parlé de Muay Thai,
ouais,
c'est comme ça. Alors
ouais.
Qu'est-ce que c'est ça, le
Alors
Muay Thai?
Le Muay Thai quoi, c'est une discipline qui vient de la Thaïlande, d'accord. On a le droit au pied, au poing, au tibia, au genou, au coude. On peut saisir et travailler au corps à corps. On peut amener au sol. Ça s'arrête là. Par contre, on travaille pas au sol.
Okay.
D'accord. Donc c'est la boxe traditionnelle de la Thaïlande. Nous, c'est vrai que à la riche, au Tuavan Fight, vous en verrez pas. Nous, ce qu'on aime, c'est le kickboxing, le pied, poing, tibia.
Yes,
voilà,
okay.
Et on a le droit au genou, la petite dérivante justement du K1. Pour ça qu'on appelle le K1 et le kickboxing. Le K1 est une dérivante du kickboxing. C'est le mien ?
Non, t'inquiète, ouais. Pas de problème. Ça va s'arrêter, c'est juste qu'on a une petite sonnerie dans les micros. Alors, du coup, il y a aussi le K1 Rules,
tout
si
à
je
fait.
Ne m'abuse, qui sera représenté. Alors, c'est quoi la différence avec le kickboxing ?
C'est exactement, on a le droit au coup de genou en plus, on a le droit à saisir au niveau de la tête, au niveau des épaules, bon, vaut mieux saisir au niveau de la tête, et on a le droit à un coup de genou, et on doit lâcher, obligatoirement. On n'a pas le droit de tenir et de continuer à donner des coups de genou.
Waouh, les coups de genou dans la tête ?
On a le droit.
Oh là là.
On a le droit. Par contre, on n'a pas le droit de faire baisser la tête et faire venir la tête au genou, c'est le genou qui vient à la tête. Vous voyez ce que je veux dire?
Okay.
On n'a pas le droit de tirer très fort pour faire venir la tête en bas, parce qu'après ça devient dangereux aussi à ce niveau-là.
Bien évidemment.
Jack, ça l'est déjà.
Ouais, carrément. Et donc toi, du coup, tu aurais un exemple, ça m'est venu comme ça, d'un combat où tu étais dans des postures un peu compliquées, un exemple de souvenir que tu as, où c'était vraiment compliqué pour...
Le dernier que j'ai fait, okay. C'était en 2015, mars 2015, si je dis pas de bêtises. Bah, tout simplement, c'était serré jusqu'au 3e round, et puis... coup de pompe, je commence, mon adversaire physiquement commence à prendre le dessus, fin de 3e, 4e, je vois rien du tout. Honnêtement, je me dis que ça va être difficile. Mon coach dans le coin, mon père, il arrive à me rebooster, il arrive à me remotiver, et puis ça va qu'on est à la maison, j'ai mon public. Puis je me dis que de toute manière, pour gagner, là, maintenant, j'ai pas le choix, j'ai perdu au point. Peu importe ce que je fais, j'ai perdu. Soit je le bats par KO, soit je le coupe, et j'ai gagné. Et je me dis le tout pour le tout, l'adversaire était beaucoup plus petit que moi. En taille, et ben j'ai misé sur les genoux et j'arrive à le toucher au genou sur la fin du round, fin du 5e round, j'ouvre l'arcade suffisamment pour que le combat s'arrête et que je gagne en fait.
Oui, parce que quand le sang coule, on arrête le combat.
Il peut y avoir des petites coupures où on va mettre de la vaseline, mais le médecin peut décider d'arrêter à n'importe quel moment s'il estime que voilà la sécurité est mise en danger quoi du boxeur.
Alors le kickboxing, j'ai pu lire que c'était influencé par les boxes occidentales, notamment anglaises et françaises. Tu peux nous décrire un peu ces types de boxe et en quoi ça...
Alors moi, ce que je sais du moins du kickboxing, c'est que ça vient aussi bien du Japon que des États-Unis. Exactement. Il y avait la boxe américaine où aux États-Unis on appelait ça le kickboxing américain ou la boxe américaine où on avait le droit de donner les coups de pied au-dessus de la ceinture. Et on avait le droit au poing, d'accord ? Au Japon, eux, ils avaient le droit, par contre, au poing, au pied, mais ils avaient le droit de boxer en dessous de la ceinture. Ils avaient le droit. Donc, ce qu'ils ont fait un jour, c'est qu'ils ont voulu, ils ont fait rencontrer les disciplines, en gros, les Américains et les Japonais, voilà. Et puis, de fil en aiguille, une discipline qui en est sortie, qui a été connue nationalement. Et à l'époque, et après aussi, bon, c'est un peu plus récent, même si c'est pas tout récent, où Jérôme Le Banner était un grand, grand champion du K1 au Japon, dans les règles du K1, et où il a performé de fou, et il a été reconnu comme une grande star, et en même temps, c'était normal.
Eh bien, merci beaucoup, Brian, pour ce début d'émission. On fait une petite musique, et puis on se retrouve dans pas longtemps.
Et on va écouter Caribou avec Can't Do Without You.
Can't do without, 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 can't
De retour sur Radio Campus avec Brian Massé. Alors du coup, c'est très intéressant ça, parce qu'un événement du coup est organisé par les trois clubs de boxe de Tours. C'est pas toutes les écoles qui font ça tout de même. Alors du coup, on pourrait revenir un peu sur, si ça te va Brian, sur ces écoles et puis nous dépeindre un peu comment ça se passe, par exemple combien il y a d'élèves, tout ça.
Eh bien alors bon, pour les trois clubs dans l'ensemble, on fonctionne de la même manière. Hein, les profs sont les mêmes, que ce soit de la Riche aux deux autres clubs, sont les mêmes, on tourne. Hein, on tourne de salle en salle et donc on offre ouais, la possibilité de venir à la salle de boxe tous les jours, du lundi au samedi matin, tous les soirs 18h30, 20h, 20h, 21h30. Il y a deux séances par soir de proposées, une séance le samedi matin et l'école de boxe le mercredi après-midi de 14h à 18h30, et ça commence à partir de l'âge de 6 ans, 6-8, après 8-13, 13-17, et après les seniors. Okay. Donc c'est vrai qu'on offre, il y a une tranche quand même assez grande pour pouvoir pratiquer la boxe. Eh bien, que ce soit à La Riche, à Tournor, au Sanitas, voilà nos horaires dans l'ensemble. Et la petite particularité du nouveau club qu'on a ouvert, le Boxing Club Tour Métropole, c'est qu'on y a accès le matin. Le matin avec des petits cours personnalisés de 4 à 8 personnes maximum, et donc qui sont donnés par ma petite sœur Brenda Massé, et je vous invite à aller y faire un tour parce que c'est génial et ça bouge bien. Donc n'hésitez pas à y aller. Okay. Y a pas de problème.
Tu as dit que ça commençait à 6 ans la boxe ?
Ouais, à 6 ans.
Alors c'est assez jeune ça tout de même.
Alors oui, bon, on dit de la boxe, on peut appeler ça baby box ou box kid, on peut, voilà, c'est très ludique hein, c'est beaucoup de jeux parce que à cet âge-là de toute façon, il y a pas d'autre moyen que de leur inculquer des choses par les jeux quoi. Moi je trouve,
oui,
en tout cas.
Carrément.
Et donc moi je gère un groupe, celui de Tournor, le mercredi après-midi, et donc oui, voilà, à base de jeux, beaucoup de jeux, même s'ils sont friands, ils ont envie de boxe. Il faut leur faire comprendre qu'au début on est obligé de passer par ces étapes là et puis il faut les tenir aussi parce que ça bouge, ça gesticule quand ils sont tout petits comme ça.
Yes. Et mine de rien c'est assez intéressant parce que au-delà de la boxe il y a aussi ces valeurs derrière, et peut-être qu'en fait quand on est jeune comme ça on peut peut-être appréhender ou comprendre certaines valeurs de respect en fait, ou quoi que ce soit dès cet âge.
Tout à fait, parce que c'est vrai que dans la boxe déjà de base, même quand on regarde la boxe, le boxeur il parle jamais à l'arbitre. Et oui. Moi, je trouve que ça, c'est un bon exemple dans le sens où voilà, l'arbitre, il a défini que c'était comme ça, c'est pas autrement, on revient pas sur la décision, on discute pas, on parle pas et on va dire on obéit. Voilà, et c'est vrai que ça, des fois, ça donne des valeurs un peu aussi de respect de partenaire. Il y a, voilà, on peut avoir un peu de rancœur sur le ring, ouais, ou même à la salle entre nous, des fois, ça peut arriver, hein, ça boxe, il y en a un qui met un coup un peu plus fort que l'autre, tout ça, bon, on se le rend à la salle. Mais après, une fois que c'est fait, une fois que le ring est terminé, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, quoi, c'est fini. Mmh. Et je pense que ça apporte, oui, la boxe pour ça, des vraies valeurs, quoi, des valeurs de respect qui sont pour moi importantes.
Complètement. Et toi, ça a changé quoi? Enfin, t'en fais depuis longtemps, je pense.
Alors j'en fais depuis que j'ai 6 ans en fait. Bon, j'ai fait d'autres sports, hein. J'ai bifurqué un petit peu, j'ai fait un peu de rugby, j'ai fait du football, mais je suis toujours resté à la boxe et revenu à la boxe parce que j'ai arrêté 2-3 ans pour bricoler un petit peu aussi sur d'autres sports. Et c'est vrai que oui, ça m'a apporté pas mal de choses, beaucoup de respect, d'humilité, je trouve aussi, et puis ouais, voilà, du respect, parce qu'on sait qu'on est capable de faire certaines choses, du moins, et que ces choses-là, elles sont bien que dans une salle de sport, une salle de boxe, ou une salle de MMA, ou autre, une salle de sport de combat. Mais voilà, ça en reste ici.
Mmh. Ou même de la confiance en toi, peut-être aussi.
Ah, exactement, oui, je pense que ça a dû y jouer, même si on s'en rend pas forcément compte. Je pense que je m'en rends pas compte, parce que c'est depuis que j'ai 6 ans que je monte, oui, sur un ring ou les tatamis. Mais oui, évidemment, je pense que ça a eu un impact sur la confiance en soi.
Et comment on devient prof de boxe?
Eh bien, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans déjà, j'étais à l'école de boxe et je donnais un coup de main à mon père le mercredi après-midi. Puis de fil en aiguille, j'ai eu un cours senior et puis ça m'a plu. Et puis après, ce qui m'a vraiment plu, évidemment, c'est un cours compétiteur. Et puis j'ai passé mes diplômes, mon brevet de moniteur fédéral premier degré, après le deuxième, le troisième, et ensuite j'ai passé mon BPJEPS, mention sport de contact, et donc voilà, qui me permet d'avoir un brevet professionnel et d'enseigner et d'être rémunéré suite à ça aussi.
D'accord, très bien. Alors pour revenir maintenant au Tour Event Fight, tu peux nous en dire plus un peu sur les combats, les boxeurs, quelle catégorie, alors, tout ça?
Eh bien, alors on a exactement 8 combats. 8 combats de kickbox de K1. Tous sont du K1. On a exactement 4 boxeurs de chez nous qui boxent. 5 boxeurs. Il y a pour commencer Rostam Osmanian, un jeune de chez nous qui est junior, qui est mon petit poulain, je dirais, depuis qu'il a 14 ans, ou même un petit peu avant, 13 ans. Et là, il a 16 ans et il monte sur le ring pour la deuxième fois. Donc voilà, donc c'est la petite jeunesse montante du Boxing Club La Riche. Et puis après, bon, il y a Iris, la féminine, qui est classe A, que je vous parlais tout à l'heure, qui boxe contre la championne de France Muay Thai 2018. Ensuite, on va avoir Tony Sherpo, Tony the Dog, son surnom, qui boxe chez nous aussi depuis pas mal d'années, qui est très explosif, costaud et dur au mal. Il revient d'une défaite, donc je le connais, il a envie de prouver qu'il est là pour gagner. Juste après, on a Souliman Belguit, pareil de chez nous, avec un très beau palmarès de nombreuses victoires avant la limite, et qui va rencontrer un bon adversaire. Et on va dire le numéro 1 de notre salle de boxe, Ali Farchi, qui a été champion du monde en 2017 en amateur, et puis après il est passé professionnel. Et il a été champion de France professionnel la saison dernière. Là, il revient des championnats du monde à Waco. Bon, il perd en 16e de finale contre le Croate, qui a terminé en finale. Encore une belle expérience. Eh bien, il va boxer le champion de France en titre, kickboxing. Donc lui, il est K1. Et il va boxer le gars en kickboxing. Donc là, c'est deux gars qui vont, voilà, en gros, se batailler pour la place de numéro 1. Et donc, il faut s'attendre à un très beau spectacle. Et puis pour continuer, après j'ai fait venir, Bertrand Lambert, un boxeur de l'Académie des Boxes de Villejuif, la région parisienne, que j'aime beaucoup, j'aime son style offensif, et qui va rencontrer un Italien, Ivan Nakari, qui en ce moment a rencontré des très grosses pointures. Même s'il n'a pas réussi à gagner, il ne perd pas par KO, il est toujours debout, il est là, c'est un guerrier. Donc il faut s'attendre à vraiment une rencontre très très explosive. Et comme à son habitude, on organise un tournoi des moins de 72 kilos. Il y a deux demi-finales. Et les gagnants de cette demi-finale boxeront le 4 avril 2020 à La Riche pour faire la grande finale en 5 fois 3 minutes. Parce que là, tous nos combats de boxe se déroulent en 3 fois 3 minutes. 3 rounds de 3 minutes, okay. Avec une minute de récup entre chaque round. Donc ça va très vite. Donc c'est pour ça que les gars perdent pas de temps. Et quand ils démarrent, c'est parti, tout de suite.
Mais 3 minutes sur un ring, du coup, ça peut être très long.
Si on n'est pas prêt, c'est long. Ouais, c'est
long. Oui, si on n'est pas prêt, il y a.
Et puis même si on est prêt, ça peut être long quand même. Ouais.
Il y a le cardio aussi. Enfin, le physique, ça doit être quelque chose.
Ah oui, c'est spécifique. Il y a du cardio spécifique à la boxe, mais c'est vrai que oui, c'est une des choses les plus importantes. Le mental, ça, et le mental, le physique, la technique, il faut allier tout ça pour être bon. Parce que si on en a qu'un, il y a un moment où ça va pêcher. Si on n'est que bon techniquement, ça va pêcher un moment physiquement, si c'est que physiquement, et vice versa.
Et il y a j'imagine que. Enfin, quelqu'un qui va boxer d'une certaine manière. Enfin, ma question, c'était plus qui décide de qui contre qui en fait à la boxe.
Parce alors il y a des fédérations où il y a un ranking, un classement, un vrai classement.
Oui, okay.
D'accord. Malheureusement, je vais parler comme ça de ma discipline, mais c'est vrai. En France, il y a pas de ranking réel de fait qui est écrit et qui est acté où on dit le premier va rencontrer le deuxième va rencontrer le troisième. Et les championnats de France pro, comment ça se passe? On boxe, on s'inscrit dans une discipline, une catégorie de poids. Il y a un tirage au sort, quart, demi, finale. Si on va jusqu'au bout, qu'on gagne la finale. On est champion. Voilà comment ça se passe. Maintenant, après, c'est pas comme en boxe anglaise où on peut voir où il y a le premier, le deuxième, le troisième, et le troisième demande à rencontrer le premier pour avoir la ceinture, etc.
Ah, okay.
C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, en pied-point en tout cas. Même si on tend de plus en plus à du sérieux, et grâce aussi à la FFKMDA et même à tous ceux qui œuvrent pour la boxe pour que ce soit bien fait, parce que c'est important pour nos jeunes qui sont motivés, quoi.
Complètement, puis il faut quand même que le combat soit un peu équilibré, sinon c'est,
ah oui,
c'est très dangereux.
Alors bien sûr, mais bon, quand on est inscrit en pro, voilà, tout le monde, les gars tiennent la route, voilà, après, je veux dire, moi j'ai choisi de qui boxe contre qui, mais je suis obligé de mettre des personnes, s'ils sont classe B, ils sont contre un classe B, classe A contre un classe A, et puis pour le spectacle, il n'y a pas d'intérêt à mettre un gars qui a 30 combats contre un gars qui a 2 combats.
Exactement.
Parce que bon, le déséquilibre, il va être là, on va le voir, le public va le voir, personne ne va progresser dans l'histoire, et c'est pas cool pour celui qui est moins bon, et c'est pas cool pour celui qui est meilleur. Bon voilà, c'est notre point de vue aussi, quoi.
Il y a des catégories de poids aussi,
ouais. Bah oui, il y a, ça va de la plus petite, je la connais pas, je me souviens plus, parce que j'ai pas de boxeur dans les petites catégories. Je vais en avoir, ça doit aller moins de 48 peut-être pour les féminines, même moins de 42 peut-être encore, ça peut être descendre, c'est possible. Ouais. Et ça va après, bah, jusqu'à plus de 95 kilos pour les hommes. Et plus après, ils vont, il y a pas de limite.
Ok. Et plus c'est costaud, moins c'est rapide, c'est ça la différence.
On peut dire ça. Après, les mecs à très très haut niveau, ils sont costauds, ils sont rapides.
Ouais, pas de problème. Bien sûr.
Ouais.
Ça doit. Alors aussi, oui, tu as parlé de ton poulain, c'est son deuxième combat. C'est ça?
Ah oui, le petit Rostam. Voilà, c'est un petit jeune que j'ai à la salle et qui est très motivé et qui s'entraîne presque tous les jours, malgré, je veux dire, en plus de sa formation d'installateur sanitaire qu'il fait à Saint-Pierre-des-Corps. Et donc, il est bien motivé et puis ça se ressent dans sa boxe, ça se voit.
Et ça fait quoi, du coup, parce que, enfin, quand on est en entraînement, c'est une chose, mais du coup, de monter face à quelqu'un qu'on connaît pas, tout ça, tu te souviens de ta première émotion un peu, ou...
Bah, c'est vrai que, des toutes premières, quand j'étais plus jeune encore, c'est différent, quoi. J'ai pas trop le. C'est vraiment là quand on rentre dans le coup. Parce que quand on est en assaut ou en light, on va dire qu'on n'a pas le droit de frapper fort, l'appréhension est différente. Mais dès qu'on commence dans les règles du combat où on a le droit de toucher pour pour marquer ses points et aussi pour on a le droit au chaos, bah c'est pas la même dans le coup. Et c'est vrai que là l'appréhension est différente. Il y en a qui la gèrent moins bien que d'autres, il y en a qui vont vraiment stresser et perdre 50% de leurs moyens, voire même plus, et il y en a que ça va transcender et puis qui vont être encore meilleurs sur le ring qu'à la salle. Après ça dépend des caractères et de chacun.
Et ça veut des chaos, t'en as déjà mis toi?
Pas tant que ça. J'ai gagné 7 fois avant la limite sur 61 combats. Donc on va pas dire que j'étais un frappeur hors norme, mais c'est vrai que j'ai un très bon coup d'œil, on va dire. Voilà. Je pense, vu que j'ai commencé assez jeune, j'ai assez l'art de pas prendre les mauvais coups, oui, et okay. d'être là au bon moment, quand il faut, les petits placements qu'il faut, qui suffisent à être bien placé pour pouvoir bien boxer.
Parce qu'on s'en rend pas trop compte, moi-même qui n'ai jamais pratiqué de sport de combat, mais je pense que quand on se prend un vrai coup de poing dans la figure, en fait, on est sonné à un moment.
Alors on peut. On peut,
mais alors du coup, comment est-ce que tu gères quand tu es sonné le fait de ne pas qu'il te.
Je pense qu'il y a un petit peu d'expérience de situation où c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a les automatismes qui rentrent en place aussi.
Ouais.
Bah, tout ce qu'on travaille à la salle, qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, bah, le cerveau automatiquement il va le ressortir. Une protection, même on a pris un coup, le fait de se mettre dans une telle posture, d'effectuer un pas de retrait ou encore même de s'avancer, de se coller au corps à corps pour éviter de reprendre un autre coup. Des fois c'est plus intéressant que de reculer. On a toujours l'impression qu'à la boxe, des fois de reculer parce que son adversaire frappe fort ou avance, c'est la solution. Et bah, pas du tout. À mi-distance, on risque encore moins des fois, ou même coller que de se mettre à sa distance au bout de ses jambes ou au bout de ses poings. Donc ça va dépendre après de si on prend pas déjà, si le coup qu'on prend est pas trop puissant, parce que après c'est bien beau, s'il est trop puissant, ben on mettra le genou par terre puis on se fera compter, ou soit on est encore assez lucide et puis on continue et puis ça, on voit ce que ça donne par la suite.
Carrément. Pour nos auditeurs, t'aurais un ou deux exemples de combats un peu d'anthologie, toi, qui t'ont vraiment marqué chez les pros?
Alors moi, j'en ai plusieurs. Alors après, il y en a pour qui ça va parler, il y en a pour qui ça va pas parler. Moi, je vais parler de boxeurs comme Robbie Kaman, un boxeur néerlandais. Moi, j'aime beaucoup la culture néerlandaise, j'aime leur boxe. Pour moi, c'est les meilleurs kickboxers, ou du moins, c'était les meilleurs, parce que maintenant, les autres pays autour aussi évoluent beaucoup. Et à l'époque, contre Rick Rufus, un Américain, c'était une. Je pourrais plus dire dans quelle année c'était, si c'est dans les années, peut-être pas loin des années 2000, je dirais, ou même 95-2000, dans ces eaux-là. Et même si c'est pas un petit peu avant. Voilà, ça c'était des grosses, grosses rencontres. Je sais qu'il y a eu plusieurs combats et que Rufus a jamais voulu le rencontrer en pur kickboxing. Et puis on va parler plus récemment. Allez, on va me dire un Mohamed Jaraya Benmo pour les aficionados. Si vous avez jamais vu ce combat, allez le voir sur le net. C'est royal.
Ok, trop bien. Moi, j'irai voir en tout cas.
Ah, bah, il faut y aller, franchement.
Et bah, ça va être l'heure, pardon, de passer une petite pause musicale avec ces belles paroles. Et on va partir avec du Prince et Uptown. Yeah.
Et hey, les amis, alors de retour sur Radio Campus, avant de vous donner un peu les infos pratiques concernant demain et l'événement du Tour Even Fight, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit quiz à Brian, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Alors Brian, est-ce que t'es prêt?
Je suis prêt, on y va, il n'y a pas de problème.
Allons-y. Alors, première question, quel nom donne-t-on à l'équipe assistant le boxeur au bord du ring? Alors les trois, c'est soit les hommes de l'ombre, les hommes de main ou les hommes du coin.
Troisième réponse, les hommes du coin.
Ouais, bien joué, c'est ça. Un point. Quelle défense consiste à arrêter un coup? Une parade bloquée, une parade en protection ou une parade chassée?
Bah, la première et la dernière, moi je mettrais.
Allez. Ah. Ça doit être ça. En tout cas, moi j'ai la première, mais la dernière, tu es beaucoup plus spécialiste que moi, ça c'est sûr. Ça doit être ça du coup. Combien existe-t-il de types de coups de pied balancés? 4, 6 ou 3?
Des pieds balancés? Alors, qu'est-ce que vous appelez des pieds balancés?
Je sais pas.
D'accord. Les pieds balancés, je pense qu'ils veulent dire par des coups de pied circulaires, peut-être.
Fontaux, latéraux, ascendants, descendants.
Ah oui, d'accord, ouais. Non, après, on va dire qu'il y a. Là, peux me répéter la question?
Bien
ça,
sûr.
Je sais bien y répondre.
Combien existe-t-il de types de coups de pied balancés?
Ah.
Vous avez 6, 3 ou 4? Bon, ils disaient 4 sur.
Ils disaient 4, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils appellent des coups de pied balancés, c'est ça le truc? Nous, on appelle ça les coups de pied circulaires, les low kick, middle kick, high kick, tout ce qui est coups de pied circulaires.
Mais c'est exactement ça, en fait. C'est peut-être le nom français de ce truc-là.
Alors, c'est vrai que nous, en français, en boxe française, on l'aurait appelé fouetter, coups de pied circulaires.
Merde.
Mais voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème.
Allez. Bon, dans quel pays sont nés le full contact et sa discipline jumelle, le kickboxing?
Eh ben, aux États-Unis.
C'est ça, exactement. On avait le choix entre USA, Angleterre et Japon. A-t-on le droit de frapper aux parties génitales?
Tout
seulement
fait.
Avec le pied, oui ou non?
Non, évidemment. Très bien. J'espère que ça arrivera jamais, quoi. C'est sûr même.
J'avoue.
On n'en viendra jamais là.
Quand Charles Lecourt, connais ça, Charles Lecourt?
Charles Lecourt, ça me dit rien comme ça.
Alors, quand Charles Lecourt a-t-il créé la boxe française à partir de la savate? Entre les deux guerres, dans les années 1830 ou le 28 juillet 1880 à 15h? Dans les années 1830, ils disent. Et la savate, je sais pas ce que c'est, moi, par contre.
Alors, la savate, c'est la boxe française.
C'est l'ancêtre,
ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. On l'appelle encore la savate.
Trop drôle. Tu peux nous rappeler peut-être ce qu'est la boxe française par rapport à l'anglaise?
Alors, la boxe française, c'est une discipline qui demande une technicité assez pointue, parce qu'on est obligé de passer par une phase sur nos coups de pied de armer, réarmer. C'est-à-dire qu'on arrive jambes fléchies. D'accord, on arrive jambes fléchies, on doit la déplier et la replier.
Ah,
et
oui,
on doit toucher jambes tendues avec le dessus du pied et le dessous du pied. Interdit de boxer avec le tibia. Dès qu'on touche avec le tibia, l'arbitre il stoppe. Il vous dit attention, coureur distance, une fois, deux fois, trois fois, avertissement, trois avertissements, disqualifié, combat terminé, perdu.
Wow.
Donc techniquement, ça demande vraiment de la rigueur et de travailler techniquement vraiment beaucoup.
Ah ouais, ça me fait penser presque au billard français, la rigueur.
Ouais,
c'est ça, un peu les trucs, les Français ont beaucoup de rigueur.
Ouais, on aime ça, on aime bien se mettre des bâtons dans les roues.
Exactement. Alors, de quel pays est originaire la zebra dance, ancêtre de la capoeira? Un choix entre la France, le Brésil ou l'Angola?
Bon bah le Brésil, je suis pas un grand connaisseur de...
Moi j'avais l'Angola, mais de toute façon...
Ah ouais? Non mais c'est parce que moi je parlais de la capoeira, pour moi c'était le Brésil. Mais alors après, je suis pas un aficionados de la capoeira, je connais très peu.
Moi, je pensais que c'était capoeira aussi, en tout cas. Alors, quelle technique consiste à gagner de la distance pour préparer une autre action? Une action d'approche, une action de profit ou une action de contrôle? Action d'approche.
Alors, quelle technique nous aide?
C'est quoi cette question?
Ouais.
Quelle technique consiste à gagner de la distance pour préparer une autre action? Ah oui, voilà, peut-être il y a une technique qui consiste à prendre de la distance, genre aller en arrière,
ouais, alors
pour
on
remettre
peut...
un coup.
Il y a le pas de retrait qui nous permet de reculer, de reprendre
ça,
un peu de distance. Il y a le pas de retrait.
Mais
après,
non, mais c'est ça.
C'est la réponse que vous avez?
Allez.
D'accord.
À quoi donc donne-t-on le titre japonais sensei?
Maître?
Maître sensei?
Non, c'est ça.
Ouais, c'est le professeur, c'est le maître.
Prof, quoi, ouais.
Exactement,
ouais,
c'est ça. Il y avait aussi arbitre ou. Ou sans. J'arrive pas à me relire. Sans. Ouais, je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, c'était bien le maître.
Ouais, c'est maître, hein, c'est ça.
Comment est donné un coup de pied chassé?
Avec le dessous du pied.
C'est ça, en jetant les pieds suivant une ligne partant de la hanche, j'avais.
Oui, ça peut être ça. Après, il y a plusieurs hauteurs. On peut le faire en bas, en haut, au milieu.
Ok.
Bon, on va se passer de pousser avec le dessous du pied et on va dire avec le pied à l'horizontale. Ça, c'est un chassé. On va l'appeler chassé latéral. On va le sidekick en anglais.
Sidekick, c'est beaucoup plus.
Ouais, c'est mieux. Ça passe mieux comme
non,
ça.
Non, mais grave. Bon, en tout cas, merci de t'être prêté au jeu.
Oui, il n'y a pas ça de problème. Merci à vous.
Et puis, alors, pour finir, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Où est-ce que ce sera? Je crois qu'on ne l'a pas dit d'ailleurs. C'est...
Alors, eh bien, c'est 75 rue de la Chapelle à la Halme au Conseil. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un événement de kickboxing K1's Rule. Il y a des places en gradin, il y a des places ring, donc qui se trouvent en bas près du ring, sur des tables. Et il y a des tables avec dîner, spectacle, dépêchez-vous. Il n'y a plus beaucoup de place au niveau des tables. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur notre site www.toureventfight.com. Vous avez toutes les informations ainsi que le plateau et les vidéos de nos précédents
oui,
manifestations. Vous pouvez voir les combats, les combattants qui vont boxer aussi. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on va y faire. Et petite surprise, je vais en parler rapidement pour ceux que ça intéresse. Je vais pas en dire plus. Il va y avoir un affrontement de Béour. Si ça vous intéresse, venez voir.
C'est quoi ça, un
combat médiéval?
Non.
Voilà.
Ah, ça, c'est trop bien.
Ouais, on met en avant un petit peu cette discipline. On teste aussi. On veut voir ce que ça donne, l'avis du public. On verra. Et puis, j'en dis pas plus.
Trop bien, super. Est-ce qu'il y aura un speaker?
Il y a un speaker.
Oh, c'est cool.
Il y a
ça.
Un nouveau speaker. Il est
ça,
tout
c'est drôle.
Il y a toujours un speaker. Et là, c'est pareil. On a voulu. Vous verrez. On essaie de faire un petit peu différent, un peu à l'américaine. Vous allez voir. Et ça va être le show sur le ring.
Super. Merci beaucoup, Brian.
Merci à vous.
Et on va terminer cette émission avant de passer à l'agenda avec, comme d'habitude, en fin de semaine, il y a du Orelsan dedans, c'est les casseurs flotteurs avec Inachevé.
Je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré. Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, au job que j'ai lâché, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai.
Inachevé.
Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr, j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment, je vais faire pareil avec le son. Pas besoin d'une bonne raison, de toute façon, je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras.
Inachevé.
Un prototype, une version bêta. Une seule réponse à toutes les questions, je sais pas. Comme un constat d'échec dans la playlist. Comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet.
Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer? Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler? Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations. Me fous branlette, améliorer, je fais pas la diff, donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses, mais comme les études, ça m'est vite passé. Et je ressens comme un vide.
Inachevé.
J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire.
Faudrait qu'on se pose et qu'on discute.
Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là, je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse. Je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refus sont mes tombeaux.
Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure.
La tête pleine de doutes, à confondre rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance.
La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur.
J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles. Je mérite une médaille, au final j'ai fait que briller par mes absences.
Tu parles de quoi?
Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me parte de là.
Et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas.
À partir de maintenant,
je commence mon ascension.
J'ai plus peur du vide,
d'affronter la spirale sans fond.
Donc j'arrête d'arrêter,
j'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson.
Inachevé.
et c'est la première mesure de ma vie d'après.
Et ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer.
Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais.
Je veux pas vieillir blasé,
à 50 piges passées,
l'envie de claquer.
Alors j'lâchais mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté. Et si l'envie de tout foutre en l'air ce point d'huile rappelé, si jamais la cabine explosera après même sous une pluie d'acier,
je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vitre cassée. Si la mort frappe à ma porte, me dites dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après.
Dis-lui de jarter,
dis-lui de venir baquer, ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée.